Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur, et en l'occurrence d'horreur absolue.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
On débute ce midi avec ces propos du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui balaye à l'Assemblée nationale la notion de crime d'honneur qu'on a employé pour qualifier l'acte ayant conduit à la mort du collégien de 15 ans Chemseddine. L'expression crime d'honneur a été employée après que le procureur d'Evry, Grégoire Dulin, a expliqué que deux frères impliqués dans l'affaire auraient appris que, je cite, leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité. Ils auraient donc voulu protéger leur réputation et celle de leur famille, d'où la notion de crime d'honneur. Gilles, ce sujet est-il sémantique? Qu'est-ce que ça raconte de notre société?
D'abord, cet événement est un événement d'opinion. Il a provoqué de l'émotion, de l'incompréhension, de la projection. Quand vous regardez la hiérarchie des discussions des Français qui a été publiée jeudi dans son baromètre hebdomadaire par l'IFOP, les deux tiers des Français ont parlé de ce crime. C'est très loin devant tous les autres événements de la semaine. C'est 15 points devant ce qu'on a appelé la taxe lapin. C'est 40 points devant les élections européennes dont nous allons parler. Donc c'est un événement d'opinion. Face à cet événement et à cette qualification, je crois qu'il faut à la fois récuser le mot, mais analyser la chose. Récuser le mot, pourquoi? Parce que ce mot a un sens. Dès lors que l'on adjoint un qualificatif au mot crime, crime d'honneur, crime passionnel, cette qualification ne vaut pas absolution, mais elle vaut justification et en tout cas atténuation. Et d'ailleurs, Ce concept a une histoire, il a une histoire juridique, puisque jusqu'en 1791, le crime d'honneur existait, et que surtout dans le Code civil de 1810, dans son article 324, eh bien, le meurtre de l'époux sur son épouse peut être excusable. Il peut être excusable, évidemment, sous un certain nombre de conditions, lorsqu'il y a un flagrant délit, lorsque c'est au domicile conjugal, mais c'est cette même idée. Et évidemment, dans une condition asymétrique, c'est-à-dire que c'est le meurtre de l'époux sur l'épouse qui est excusable, mais pas dans l'autre sens. Et puis, il a aussi, je termine par là, une histoire politique. C'est à chaque fois la même idée, l'idée que à l'attitude des femmes est associée une réputation. L'idée que la vie des femmes ne leur appartient pas totalement, mais qu'elle appartient à quelque chose de plus vaste, à la famille et aux hommes, et que les hommes sont chargés de protéger non pas l'intégrité des femmes, mais la réputation de la famille. Et donc, à chaque fois, ce qui est en jeu, c'est la question de la liberté, de la maîtrise de son propre destin, de l'égalité, notamment de l'égalité entre hommes et femmes. Donc, il n'y a pas de crime qui puisse être qualifié de crime d'honneur, mais, je le disais, on y reviendra, si on récuse le mot, il faut quand même aussi analyser la chose.
Alors justement, la chose, peut-être, Natacha, après cette explication assez limpide sur la notion même de crime d'honneur.
Oui, mais justement, le mot et la chose sont liés. Et le fait que nous ayons autant de débats sur le mot révèle que nous avons un problème avec la chose. La chose, quelle est-elle? Elle est, en fait, la révélation de conception de la famille et des rapports homme-femme, dont on voit bien, ne serait-ce que par le petit rappel historique que vient de faire Gilles, que nous en étions débarrassés en France, parce que, de fait, on peut se réjouir de certaines évolutions, et notamment du recul assez large du patriarcat en France et en Europe. Ce qui semble plutôt une bonne chose, et contrairement à ce que pensent certaines néo-féministes, oui, le patriarcat s'est largement estompé, et tant mieux. Et on voit ressurgir, en fait, cette notion-là, et on comprend bien quel est l'enjeu. On le voit ressurgir dans des populations qui sont d'origine immigrée, qui sont imprégnées d'un islam très littéraliste et qui implique un rapport entre les hommes et les femmes, qui aboutit à ce genre de choses. On peut ajouter même qu'il y a des données anthropologiques, c'est ce qu'on appelle la famille clanique, qui n'est pas du même ordre que la famille nucléaire, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment la notion de famille clanique implique ce contrôle des hommes sur les femmes. De la part de jeunes gens, dont on ne sait pas encore quel est réellement leur parcours et il va falloir le regarder, mais qui, a priori, ont de fortes chances d'être nés en France, d'être de nationalité française, très certainement, je n'en sais rien, mais on verra. Et c'est donc ce qui doit nous obliger à nous poser quelques questions. J'ajoute que dans le débat sur les mots, il y a ceux d'un côté qui récusent en disant « ça donnerait l'impression d'excuser », et il y a ceux, comme Isabelle Claire, sociologue, qui l'autre jour, sur chercheuse au CNRS, qui réagissait sur France Culture, qui vont dans l'autre sens. Je cite ses paroles. « Parler de crime d'honneur, c'est aussi une ethnicisation d'un type de violence. C'est rapporté non pas à des violences de genre qui sont très bien signifiées, c'est une façon de les particulariser, de les rapporter à une culture étrangère, etc. Et ce qui empêche de comprendre une grande partie des ressorts de cette violence qui a à voir avec le très contemporain, avec la société française, avec d'autres formes d'inégalités qui sont aussi des inégalités raciales. » On voit comment... Ça s'appelle noyer le poisson, en fait. Ça s'appelle dire, bon, d'accord, il y a ce problème-là, mais le pire, c'est le racisme en France. Comme si ça avait quelque chose à voir.
C'est aussi dire, il ne faut pas uniquement considérer que ce crime a lieu dans un contexte éventuellement ethnique particulier, mais que ça s'inscrit dans des violences aux femmes et qu'il ne faut pas spécifier tel ou tel fait.
C'est un débat de fond, mais comme l'a rappelé Gilles, le crime d'honneur n'existe plus dans le code pénal. Et comme je le disais à l'instant, on a réussi petit à petit à vaincre cette espèce de puissance du patriarcat qui consiste à laisser croire que les femmes sont un objet et sont la propriété des hommes. Tout l'enjeu est là, c'est un enjeu d'éducation, c'est un enjeu d'affirmation de ce qui n'est pas négociable dans la société française.
Gilles, sur la spécificité peut-être de ce crime en particulier.
D'abord, plus je viens sur la spécificité, mais sur la question de la violence, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière. Il y a la question de la réalité et des formes de la violence contemporaine. Et cette question-là, la Fondation Jean Jaurès a décidé il y a plusieurs mois maintenant de lancer un groupe de travail là-dessus. C'est un sujet dont il faut se saisir, qu'il ne faut pas occulter. C'est vrai de la violence sur les esprits, avec tout ce qu'il y a autour du harcèlement, sous ses différentes formes, mais c'est vrai aussi de la violence sur les corps, avec cette situation dans laquelle, si on est sur une perspective très longue de siècles, on a un recul de la violence physique, mais si on est sur une perspective plus courte des 20 dernières années, il y a un regain. Un regain, et qui est d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est en lien aussi avec cette affaire, qui est de plus en plus dans les relations interpersonnelles. Bon. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est pourquoi ça vient aujourd'hui. Natacha disait à juste titre que cette question-là avait... sinon disparue, du moins qu'elle avait été reléguée plus loin, qu'il y avait eu une avancée du féminisme, un recul du patriarcat. Je crois que c'est lié aussi à un autre phénomène. Les crimes d'honneur étaient liés à des sociétés de l'entre-soi ou des entre-soi dans une société catholique. Il y a eu un recul parce qu'il y a eu à la fois un déclin du religieux, mais parce qu'il y a eu aussi les phénomènes d'urbanisation on conduit à une forme d'anonymat dans la multitude et qui a créé de la liberté. Et là, on a à la fois le retour du religieux qu'a évoqué Natacha, sauf que ce n'est plus le catholicisme, mais c'est l'islamisme dans sa forme littérale, comme la plus littérale, littéraliste, comme l'a dit Natacha. Mais on a, d'une certaine manière, le retour du village. Sauf que le retour du village, il se fait sous une autre forme, il se fait par les réseaux sociaux, qui est une autre forme de recréer un monde dans lequel tout le monde est en liaison avec tout le monde.
Voire parfois le vrai village, enfin, dit le ghetto où les gens sortent assez peu, c'est aussi même très matériel. Il y a d'ailleurs aussi, j'ajoute qu'il y a aussi l'histoire de Samara à Montpellier, tabassée pour des raisons liées manifestement à l'action de la réputation. On est encore toujours dans cette même rhétorique.
Oui, Gilles a raison de souligner la nouveauté qu'apportent les réseaux sociaux et on voit à quel point cette puissance des réseaux sociaux n'est pas maîtrisée par des jeunes gens qui la subissent, et en particulier les jeunes filles. Et l'histoire de Samara, même si là aussi il est nécessaire de creuser, oui, d'attendre vraiment ce que va donner l'enquête, mais il y a eu des reportages sur place, et on commence à percevoir à peu près certaines données, et en effet, il est question de réputation au sens large, c'est toujours la réputation des filles dont on parle, hein. Et il est question de cette violence à travers les réseaux sociaux, qui sont un amplificateur et qui permettent à la fois le contrôle, la mise d'un individu sous le regard d'une communauté et en effet la question de la liberté des jeunes filles. Pour autant, il y a aussi la pression que vous soulignez, Thomas, qui est la pression de la communauté, de ce village que constitue le quartier. Et il faut quand même admettre qu'il y a dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de banlieues françaises, un poids sur les filles qui est signalé depuis 20 ans. C'était déjà dans ce fameux livre qu'on a trop lu à l'époque, Les territoires perdus de la République, la pression sur les jeunes filles est une monstruosité. Et il faut quand même le souligner, c'est-à-dire qu'il y a le poids de la famille clanique et de la façon dont on contrôle le corps des femmes.
Le grand face-à-face, le duel.
Il faut qu'on puisse entrer plus facilement dans la fonction publique, qu'on puisse être promu plus facilement dans la fonction publique et qu'on puisse en sortir plus facilement. Le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Je vais vous donner un chiffre. Il y a dans l'État 2,2 millions d'agents publics. L'année dernière, il y a eu 13 licenciements.
Stanislas Guérini au micro de Simon Le Baron sur Inter cette semaine. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a lancé ce mardi les concertations avec les syndicats sur sa réforme de la fonction publique. Parmi les pistes à l'étude, on vient de l'entendre, mieux sanctionner les insuffisances professionnelles des fonctionnaires, accentuer la rémunération au mérite, faciliter les mutations d'une branche à l'autre et un tabou sur lequel j'aimerais qu'on revienne, le licenciement, le cas échéant. Natacha, c'est un tabou qu'il convient de faire sauter aujourd'hui ?
Alors, je trouve que cette séquence, comme on dit aujourd'hui, de quelques jours que nous avons vécu depuis cette réunion de concertation du 9 avril, a quelque chose de caractéristique. C'est-à-dire que le ministre de la fonction publique se réunit avec les syndicats. Il y a un document qui est remis aux syndicats au préalable. Ce document évoque différentes pistes et le ministre donne ensuite une interview dans Le Parisien dans laquelle il parle du tabou du licenciement. Alors, ce terme tabou, en général, quand on l'entend, immédiatement, il y a les gyrophares qui doivent s'allumer. On doit se dire, attention, une stupidité va être dite. Et en l'occurrence, c'est exactement cela. Pourquoi ? Parce que les syndicats ont immédiatement hurlé, à mon avis, à juste titre, dans la mesure où il n'était pas question de tabou des licenciements dans le document qui leur a été remis, mais au contraire d'une réflexion à mener sur ce que dit tout à fait le ministre là au micro de France Inter, à savoir la question du dévoiement de la garantie de l'emploi, la réflexion qui doit être menée sur le fait de savoir ce qu'on fait quand un fonctionnaire a visiblement un problème dans son emploi. Et dans le document en question, il était expliqué que le problème est justement qu'il n'y a pas de gradation et que la seule réponse est le licenciement. Puisque, de fait, ça existe, alors c'est très très rarement utilisé, 13 cas en 2022 sur 2,2 millions de fonctionnaires, ça n'est pas énorme, mais ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de RH, tout simplement, dans la fonction publique, c'est bien le problème. Et ça se transforme, dans une interview au Parisien, en cette phrase absurde, il faut revenir sur le tabou du licenciement, ce qui est le contraire de ce qui était normalement la base de discussion avec les syndicats. Pourquoi ? Bah parce que là, on s'adresse à un électorat, et que à cet électorat, il s'agit de dire, nous n'avons peur de rien, nous allons réformer ce qui, en langage contemporain, signifie nous allons retirer des acquis sociaux, des droits et tout ce qu'on veut. Et c'est donc un message à un électorat plutôt de droite en période de campagne électorale. Je trouve que c'est une très mauvaise manière à faire à la fonction publique française parce qu'il y a une réflexion de fond à mener sur le rôle de l'État, sur la question de savoir pourquoi on a tant de mal à recruter dans ce supposé paradis qu'est la fonction publique, et en particulier dans des métiers essentiels, mais qui sont ceux qui sont au contact d'une population de plus en plus exigeante, de plus en plus agressive, de plus en plus en position de créance vis-à-vis de l'État. Toute cette réflexion-là mérite mieux qu'une phrase politicienne.
Électoralisme, on parlait de violence tout à l'heure, est-ce que c'est une forme de violence aussi ?
Bon, ce qui est certain, c'est que ces annonces interviennent dans un contexte, même dans un double contexte, qui est celui du débat sur les économies budgétaires et de la campagne sur l'élection du Parlement européen. Alors si on accepte l'idée que cette réforme proposée est indépendante du contexte.
Vous avez fait une moue pour les gens qui
nous écoutent.
Oui, j'ai fait
une moue, parce que non, c'est pas impossible s'agissant de la dimension budgétaire. En revanche, c'est sans doute plus discutable, et Natacha l'a dit, s'agissant de la dimension politique. Bon. Mais si on revient sur le fond, je crois que de manière incontestable, il y a une crise de la fonction publique, une crise d'attractivité dans beaucoup de domaines et une crise de la satisfaction à la fois des agents qui s'estiment mal payés, mal considérés, maltraités et de plus en plus des usagers où on voit année après année que à la fois l'opinion et la satisfaction des usagers est en recul. Et je crois que la réforme de l'État sera un des grands échecs des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, mais si on veut être honnête, c'est sans doute un échec qui remonte à plus loin. Ça fait au moins 20 ans que c'est un échec collectif, et je crois que ça sera un des grands enjeux de la campagne présidentielle de 2027. Une fois qu'on a dit ça, d'où vient le problème? Il y a sans doute une dimension qui n'est évidemment que peu abordée là, qui est une dimension financière. Il y a une réalité d'effectifs insuffisants dans certains domaines, de rémunération insuffisante. Mais je crois que c'est une illusion de penser que augmenter les effectifs et augmenter les rémunérations à soi seul résoudra le problème. Oui. Il y a un autre problème dont on parle, je crois, beaucoup trop peu, qui est un problème d'organisation. On reste sur une organisation de la fonction publique, des fonctions publiques, qui est trop centralisée, trop hiérarchisée, trop processé, et il faut redonner de l'autonomie, il faut redonner de la responsabilité, définir davantage les objectifs, laisser beaucoup plus de liberté sur les moyens. En gros, il n'y a pas de management dans la fonction publique, où il y en a trop peu. Est-ce qu'il y a en plus un problème de statut? Alors, c'est possible sur certains sujets, mais c'est là où il faut regarder. Ce qui est certain, c'est que rentrer par la question du licenciement, qui est un sujet en réalité marginal, est le meilleur moyen pour bloquer le tout. Mais si on prend un exemple qui est celui de la mobilité, hein, Stanislas Guérini le dit, il y a insuffisamment de mobilité, c'est un sujet qui est un vrai sujet. Il y a de la mobilité géographique dans un certain nombre de professions, par exemple dans l'éducation nationale. Il y a de la mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire que vous changez de poste, notamment pour les hauts fonctionnaires. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a peu de mobilité. La question, c'est est-ce que c'est le statut qui l'empêche ou est-ce que ce sont les différences de grille salariale entre les ministères?
Et les catégories aussi.
Et les catégories.
A, B et C, l'idée, c'est de peut-être les faire disparaître.
Et est-ce que c'est la culture des administrations qui, en réalité, est très réticente à la mobilité, à voir ses agents partir dans une autre administration? Donc, ça, ces questions-là, je crois, sont des bonnes questions. Après, pour finir, je crois que le débat est mal engagé pour une raison qu'a évoquée Natacha, c'est que quand il y a un décalage entre ce qui est discuté dans la réunion de concertation et la communication qui suit après, eh ben, vous crispez. Lorsque le calendrier est un calendrier qui est un calendrier manifestement trop serré, vous crispez. Lorsque il y a une provocation qui est une provocation comme le licenciement, vous crispez. Et lorsque Alain Duhamel dit sur la méthode, c'est lamentable, c'est qu'on voit qu'il doit y avoir un problème.
Quand on a crispé Alain Duhamel, c'est qu'on a crispé tout le monde.
J'ajoute d'ailleurs que faire ça à 3 mois des Jeux Olympiques, quand on craint que des syndicats comme la CGT ou Force Ouvrière n'utilisent cette vitrine, ce qui serait déplorable à mon avis, mais pour mettre en œuvre une grève et faire pression, ça n'est pas... Voilà, c'est un minima un peu risqué, mais j'ajoute juste un point sur ce que disait Gilles, parce que je souscris à sa réflexion sur ce qui devrait être au cœur d'une réforme de l'État. J'y ajoute, en effet, il a esquissé l'idée que la question est celle beaucoup du reporting, de l'inflation administrative, de la lourdeur qui...
Attention, on va avoir beaucoup de courriers du médiateur, hein, parce que on a entendu processer, management, reporting.
Oui, reporting, c'est-à-dire le contrôle, en fait, l'obsession du contrôle qui, sous prétexte d'améliorer la performance, en fait, alourdit absolument tout et détruit l'intelligence des individus. J'y ajoute encore un point, c'est que c'est la fonction publique territoriale qui a énormément augmenté sur les 20 dernières années, alors même qu'il y a 20 ans, je ne pense pas que la France était sous-administrée. Et là, il y a une réflexion à mener sur la décentralisation, sur peut-être parfois la tentation de maquiller le chômage par une embauche de fonctionnaires territoriaux, je pense qu'en effet, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus.
Vous écoutez, il y a un débat plus important et plus profond à mener qu'uniquement soulever un tabou.
Bien sûr.
L'alerte rouge du tabou que vous avez évoqué tout à l'heure.
Le grand face-à-face, le duel.
L'Union européenne se construit, je le crois aujourd'hui, bien trop souvent contre l'intérêt des peuples, en imposant une submersion migratoire qu'une majorité de peuples en Europe rejette, en imposant une décroissance économique et une décroissance agricole qui a mis des milliers d'agriculteurs français et européens partout dans les rues du pays, et évidemment un empilement de normes toujours plus complexes pour nos chefs d'entreprise. Et je suis, moi, précisément dans ces élections européennes, le candidat de l'Europe des nations et de l'Europe des réalités face à ceux qui défendent l'Europe fédérale.
C'était Jordan Bardella face à Raphaël Glucksmann hier matin sur France Inter. Gilles, cette vision de l'Europe semble aujourd'hui l'emporter, à suivre les enquêtes d'opinion. La liste RN est donnée largement en tête, gagnante à 30%, peut-être même au-delà des suffrages le 9 juin prochain, c'est dans moins de 2 mois. Est-ce que la victoire très large du RN est une fatalité?
Natacha faisait référence aux Jeux Olympiques, pour continuer à filer la métaphore. Si les élections présidentielles sont un marathon, l'élection au Parlement européen, c'est un 400 mètres. C'est l'élection du dernier tour de piste. Et donc, je ne sais pas si les Français vont entrer dans la campagne, mais en tout cas, ils n'y sont pas encore complètement entrés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde les élections précédentes, ça se joue dans les dernières semaines, derniers jours presque?
Alors, ça veut dire que c'est une élection dans laquelle la mobilité est moins forte qu'une élection présidentielle, ouais. Beaucoup moins forte, mais elle existe quand même et elle se fait vraiment à la fin. Et donc, il faut quand même être prudent. Une fois que j'ai dit ça, votre question, est-ce qu'on va vers un triomphe du Rassemblement National? Ce qui me semble acquis, voire ce qui me semble certain, c'est que le Rassemblement National va finir en tête. Ça ne sera pas nécessairement un triomphe, mais ça sera une victoire. D'ailleurs, c'est une habitude, puisqu'il a déjà été en tête en 2019 et qu'il a même déjà été en tête en 2014. Ce qui me semble acquis aussi, c'est qu'il va faire un score élevé, vraisemblablement le score le plus élevé de l'histoire du Rassemblement National, et peut-être le score le plus élevé de toutes les listes depuis 40 ans.
D'accord.
Bon.
Ce qui me semble. Toutes listes confondues.
Oui. Ce qui me semble probable, c'est que cette élection accélère et achève la mutation du Rassemblement National comme un parti attrape-tout. C'est-à-dire un parti qui touche toutes les catégories, toutes les géographies. Aujourd'hui, dans les enquêtes, on va voir si ça se traduit. Le 9 juin, il y a le plafond de verre démographique qui est brisé. C'est-à-dire qu'il y a une percée chez les plus de 60 ans du Rassemblement National. Il y a, sur le plan politique, une percée dans la droite classique. Et il y a, sur le plan géographique, une percée dans un certain nombre d'endroits. On va regarder ce qui se passe en Bretagne. Après, le seuil des 30%. Il est le seuil symbolique des 30%. Il est évidemment incertain. Et puis, la transformation de tout ça, après, elle est là encore, évidemment, plus incertaine encore.
Natacha. Il faut avoir en tête que les élections européennes sont des élections assez particulières, dans la mesure où la proportionnelle induit malgré tout, même si les Français en effet rentrent très tard dans la campagne, induit une façon de voter qui n'a rien à voir avec les autres élections. Et il faut se souvenir qu'il y a régulièrement des dynamiques d'ailleurs assez intéressantes, assez parlantes, mais parfois sans lendemain, à l'occasion des élections européennes. Mais elles sont intéressantes à regarder. Pourquoi ? Parce que si vous remontez, par exemple, commence à dater, mais 1999, la dynamique de la liste Pasqua-Villiers qui passe devant la liste UMP de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les années qui suivent le traité de Maastricht et avec cette volonté d'exprimer une inquiétude, voire une colère ou un rejet. Ça raconte quelque chose de l'état de l'opinion. Quelques années plus tard, quand vous avez en 2009 la poussée d'Europe Écologie Les Verts, qui d'ailleurs, au dernier moment, puisqu'en fait le parti qui faisait une poussée pendant la campagne, c'était plutôt le Modem, et tout à coup, à la suite d'une confrontation entre Danny Cohn-Bendit et François Bayrou, Bayrou s'effondre et Cohn-Bendit passe devant. C'est-à-dire que vous avez en effet des cristallisations tardives et qui expriment la volonté de la part des Français d'envoyer un message qui est en fait un message idéologique de fond, c'est-à-dire l'inquiétude sur les questions écologiques. Yannick Jadot en a profité aux dernières élections. Ou alors l'inquiétude sur la construction européenne elle-même. Or, je ne crois pas que la poussée du Rassemblement National jusqu'à 30% signifie ce même genre de dynamique précise, mais en effet, comme l'a dit Gilles, un parti attrape tout, une façon d'agréger, non pas des gens qui voudraient remettre en cause la construction européenne, mais des gens qui veulent exprimer que le système en général va contre eux. En revanche, si on regarde le reste des listes, la poussée de Raphaël Glucksmann raconte quelque chose de la recomposition à gauche, et justement d'un éclatement de la gauche face à un Rassemblement National qui, lui, peut absorber l'ensemble de l'électorat.
Gilles, un mot ?
Oui, juste un mot. Évidemment, on se concentre beaucoup sur le Rassemblement National parce qu'il fait la course en tête. Je crois qu'au-delà du Rassemblement National, il va falloir regarder le poids global des extrêmes droites. Quand vous regardez les projections en sièges aujourd'hui, parce que le vote se traduit après par des sièges, le total reconquête et Rassemblement National, ça serait 38 sièges sur 81. Ça veut dire que près de la moitié des députés français qui sont envoyés à Strasbourg viendraient des extrêmes droites. Il faut regarder le poids et les rapports de force à l'intérieur de la gauche. Natacha l'a dit, la dynamique aujourd'hui, et ça fait longtemps que ce n'était pas le cas, est autour de la liste conduite par Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste et Place Publique, qui reconstitue un électorat qui s'était éparpillé par ses deux ailes à la présidentielle vers Mélenchon et vers Macron. Et puis le dernier point, c'est jusqu'à quel endroit on va aller de la rétraction du macronisme. Vous avez aujourd'hui deux électeurs sur trois qui disent vouloir voter pour la liste Renaissance qui ont plus de 60 ans. Donc cette rétraction démographique qui derrière est une rétraction sociologique, il faut regarder jusqu'où elle va aller et quelles vont être ses conséquences sur l'affaiblissement du président de la République et la fin de son second quinquennat.